France Musique.
Il est 7h45, c'est l'heure de Classique Info. Bonjour Sophia.
Bonjour Saskia, bonjour à tous.
On termine ce matin la série de reportages consacrée aux États-Unis après la Cleburne Junior Competition à Dallas. Vous nous parlez aujourd'hui, Sophia Anastasio, des orchestres américains.
Comme l'a rappelé Christian Merlin dans son émission Au cœur de l'orchestre sur France Musique, les États-Unis comptent 164 orchestres symphoniques permanents. Alors il y a ceux que l'on appelle les Big Five, les cinq plus importants, parmi lesquels le Philharmonie de New York. Et à côté, le pays dispose donc de très nombreux autres orchestres professionnels. Daphné Wolf fait partie des premiers violons de l'Orchestre symphonique de Dallas au Texas. D'origine lyonnaise, elle note des contrastes sonores entre les orchestres américains et les français.
Il est évident que les Américains ont vraiment le but d'obtenir un volume de son assez impressionnant. Ils y arrivent. Par contre, les orchestres français recherchent plutôt des couleurs différentes, et c'est un petit peu, je dirais, l'opposé dans un sens.
C'est le son de l'Orchestre symphonique de Dallas, dirigé par Eduardo Mata, que vous entendez justement derrière moi. Et comme pour tous les autres orchestres américains, son financement est privé, c'est-à-dire qu'il repose uniquement sur des dons et des recettes propres, comme la billetterie. Il faut donc donner beaucoup de concerts pour la remplir et faire attention à la programmation.
Évidemment, on est un petit peu à la merci de ce que désire le public, et c'est toujours un petit peu difficile de créer un équilibre entre des œuvres qu'on voudrait montrer au public pour la première fois, peut-être plus difficile d'accepter à la première écoute. Donc c'est toujours une bataille entre cet équilibre.
Et pour la chef allemande Ruth Reinhardt, ancienne chef invitée principale à Dallas, cette différence de financement a également un effet sur le temps de répétition. Si l'on compare les États-Unis avec l'Allemagne ou encore la Suède et la Norvège, dans ces pays, les orchestres sont payés par l'État, donc il est plus simple de faire plus de répétitions. Et puis, en tant que chef d'orchestre, aux États-Unis, vous devez assister à beaucoup d'événements comme des levées de fonds, mais moi, en vérité, j'aime bien ça. Les philanthropes donnent tellement d'argent pour que l'on joue de la musique, donc j'ai envie de les connaître, de comprendre pourquoi ils font ça, ce qu'ils aiment dans la musique, c'est très intéressant. Quand on arrive au Meyerson Symphony Center, la salle de concert à Dallas de l'orchestre, le nom de l'ensemble est inscrit partout et on sent auprès du public un véritable attachement pour la formation musicale que nous confirme la violoniste.
Si je dis à quelqu'un que je rencontre dans la rue, dans un magasin ou autre, que je fais partie de l'orchestre de Dallas, il y a tout de suite un étonnement, une admiration, un envie de savoir, de curiosité. C'est quelque chose qui est la fierté de la ville. Un petit peu, oui, un petit peu comme si c'était l'équipe de foot de Lyon, ou peut-être pas à ce point-là quand même, mais il y a une certaine notoriété qu'on ressent pas en France.
Vivre de son art est perçu comme quelque chose de rare dans la société américaine, ajoute-t-elle. Salariée à temps complet avec une couverture médicale, sa situation est privilégiée par rapport à celle des musiciens des plus petits ensembles plus précaires. Mais ce système de financement privé reste source de conflits même pour les plus grands. L'Orchestre symphonique de Chicago sort tout juste de 7 semaines de grève au sujet des salaires et des droits à la retraite.
Lundi dernier, une enquête du New York Times Magazine a révélé la disparition de centaines de milliers d'enregistrements musicaux dans un incendie à Hollywood en 2008.
C'est le jour où la musique a brûlé, titre le journal américain, qui parle du plus grand désastre de l'histoire du secteur de la musique. En 2008, un incendie ravageait les studios Universal à Hollywood. Et si à l'époque, on a déploré la disparition d'archives cinématographiques, Universal a réussi à dissimuler celle de centaines de milliers d'enregistrements musicaux dans un rapport confidentiel. Universal Music estime cette perte à 500 000 titres, parmi lesquels des masters, des enregistrements originaux, Billy Holiday, Louis Armstrong, Duke Ellington, John Coltrane, Elton John ou encore Nirvana. La liste des artistes et des œuvres concernées est aussi longue qu'elle est effrayante.
Thierry Fischer est nommé à la tête de l'Orchestre symphonique de Sao Paulo.
Le chef suisse deviendra directeur musical de l'ensemble brésilien à partir de 2020. Il succédera à Marine Alsop qui le dirige depuis 2012.
En France, l'Académie des Beaux-Arts accueille un nouveau membre aujourd'hui.
Élu membre de l'Académie en 2017, Bruno Mantovani sera officiellement installé dans la section de composition musicale tout à l'heure après une cérémonie. Il sera d'ailleurs le Benjamin sous la coupole, le compositeur qui s'apprête à quitter la direction du Conservatoire National Supérieur de Paris après 9 années de service, a pour l'occasion répondu à l'interview Dernier Vers du Figaro, une interview éclectique dans laquelle on découvre son coup de cœur pour le travail du chef Kirill Petrenko et que pour lui, un bon placard, Saskia, c'est un placard qui renferme un jambon.
Et on ne le dit jamais assez souvent. Merci beaucoup Sophia et pour ce reportage réalisé depuis Dallas aussi, en tout début de Classique Info. Je vous souhaite une très belle journée.
Belle journée
Sophia et à demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.